Le roi prit la parole et Talik lui servit d'interprète.
« Le roi affirme que vous êtes doué, mais que l'échange ne peut, bien entendu, se poursuivre. Vous devriez revenir avec votre Babsk à son retour. Dans une dizaine d'années, peut-être accepterons-nous de faire affaire avec vous. »
Rhys ne chercha un argument. « Est-ce ainsi que Vestim a gagné votre respect, Majesté ?» Elle n'allait pas échouer sur ce point. Elle ne le pouvait pas. Au fil des ans, avec son propre Babsk ?«
Oui, » acquiesça Talik.
« Vous n'avez pas traduit cette question, » observa Rhysn.
« Je... »
Talik soupira, puis se mit à traduire. Le roi sourit avec une affection manifeste. Elle prononça quelques mots dans leur langue, et Talik se tourna vers sa mère, l'air stupéfait.
« Je... ça alors ?»«
Qu'y a-t-il ?» demanda Rhysn.
« Votre Babsk a tué un Korako avec plusieurs de nos chasseurs, » dit Talik. « Tout seul ? Un étranger ?» Je n'avais jamais entendu une chose pareille.
Vestim tuer une créature? Avec des chasseurs? Impossible. Bien qu'il n'ait de toute évidence pas toujours été ce vieux rat de bibliothèque ratatiné, elle avait toujours cru qu'il avait été un jeune rat de bibliothèque ratatiné. Le roi reprit la parole.
Je vous imagine mal tuer des bêtes, fillette, traduisit Talik. Partez. Votre Babsk va guérir. Il est sage.
Non, il est mourant. Songea Rhysn. L'idée la traversa malgré elle, mais sa vérité la terrifia. Plus que la hauteur, plus que tout ce qu'elle avait jamais connu. Vestim était en train de mourir. C'était peut-être bien son dernier échange commercial. Et elle était en train de tout gâcher.
Mon Babsk me fait confiance,
reprit-elle en s'approchant du roi, marchant le long du nez du maniocoque.
Et vous dites lui faire confiance? Ne pouvez-vous pas vous fier à la valeur qu'il me prête ?
Rien ne remplace l'expérience personnelle, traduisit Talik.
La bête fit un pas, le sol trembla. Et Rhysn serra les dents en les imaginant tous basculer dans le vide. Fort heureusement, à cette hauteur, le mouvement n'était guère qu'un doux balancement. Les arbres se mirent à bruire et l'estomac de Rhysn se retourna. Mais ce n'était pas plus dangereux qu'un navire soulevé par une vague. Rhysn s'approcha de l'emplacement où se tenait le roi, près du nez de la bête.
Vous êtes le roi. Vous savez qu'il est essentiel de se fier à ceux qui nous sont inférieurs. Parfois, il faut accepter le jugement de ceux que l'on connaît. Mon Babsk fait partie de ces gens-là.
Vous avez raison sur ce point, traduisit Talik, l'air surpris. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai déjà témoigné cette marque de respect à votre Babsk. C'est pourquoi j'ai accepté de vous parler moi-même. Je ne l'aurais pas fait pour un autre.
Mais
retournez en bas, lui dit le roi à travers Talik, d'une voix soudain plus dure.
Elle semblait estimer l'échange terminé.
Dites à votre Babsk que vous êtes allé jusqu'à vous entretenir avec moi personnellement. C'est certainement bien plus qu'il n'attendait. Vous êtes autorisé à quitter l'île et à revenir quand il se portera mieux.
Je...
Rhysn eut la sensation qu'un poing lui broyait la gorge et l'empêchait de parler. Elle ne pouvait pas le laisser tomber. Pas maintenant.
« Transmettez-lui tous mes vœux de guérison, » déclara le roi en se détournant.
Talik sourit d'un air satisfait. Rhysn lança un coup d'œil à ses deux gardes qui affichaient des mines renfrognées. Rhysn s'éloigna. Elle se sentait engourdie, rejetée, comme un enfant qui réclame des friandises. Elle sentit un rougissement furieux la consumer tandis qu'elle dépassait les hommes et les femmes qui préparaient de nouveaux paquets de fruits. Rhysn s'arrêta soudain. Elle regarda sur sa gauche, en direction de l'étendue infinie de bleu. Puis elle se retourna vers le roi.
« Je crois, » déclara-t-elle d'une voix forte, « que je dois m'entretenir avec quelqu'un qui possède une plus haute autorité. »
Talik se tourna vers elle.
« Vous avez parlé au roi. Il n'existe personne qui en ait davantage. »«
Veuillez me pardonner, » répliqua Rhysn, « mais je crois que si. »
L'une des cordes trembla lorsque son offrande de fruits fut consommée. «
C'est complètement stupide, ne réfléchis pas. »
Rhysn se précipita vers la corde, ce qui fit crier ses gardes. Elle agrippa le morceau de corde, se laissa tomber par-dessus le rebord et descendit jusqu'au niveau de la tête du maniocoque. La tête du dieu. Passion. Comme c'était difficile avec une jupe. La corde s'enfonçait dans la peau de ses bras, et vibrait quand la créature en bas croquait les fruits accrochés à l'extrémité. La tête de Talik apparut au-dessus d'elle.
« Au nom de Kellec, que faites-vous, espèce d'idiote »
hurla-t-il. Elle trouva très drôle qu'il ait appris leurs jurons lorsqu'il étudiait chez eux. Risne s'accrocha à la corde, le cœur battant à une allure folle. Qu'était-elle en train de faire ?«
Reluna !»
cria-t-elle à Talik en retour.
« Approuve l'audace !»«
Il y a une différence entre l'audace et la bêtise !» Risne continua à descendre, à se laisser glisser, plutôt. « Oh, convoitise, passion du besoin !»«
Remontez-la !» ordonna Talik. « Soldats, aidez-les !»
Il donna d'autres ordres en réchi. Risne leva les yeux tandis que les ouvriers saisissaient la corde pour la tirer vers le haut. Un nouveau visage apparut cependant au-dessus d'elle, regard baissé vers elle, celui du roi. Elle leva une main pour les arrêter tout en étudiant Risne. Celle-ci continuait à descendre. Elle n'alla pas très loin, peut-être une quinzaine de mètres. Même pas jusqu'au niveau de l'œil de la créature. Elle s'arrêta au prix d'un grand effort, les doigts brûlants.
« Oh, grand Reluna !»
lança Risne d'une voix forte.
« Votre peuple refuse de commercer avec moi, et je viens donc vous présenter une supplication. Votre peuple a besoin de ce que j'apporte, mais j'ai encore plus besoin de cet échange. Je ne peux pas me permettre de faire demi-tour. »
La créature, bien entendu, ne répondit pas. Risne resta suspendue près de sa carapace, qui était couverte d'une croûte de lichen et de petits boutons de roche.
« Je vous en supplie !»
insista Risne.
« Je vous en supplie !»«
Qu'est-ce que j'espère qu'il se produise ?» songea-t-elle. Elle ne s'attendait pas à ce que la créature lui fournisse une quelconque réponse. Mais peut-être parviendrait-elle à persuader les gens d'en haut qu'elle était assez audacieuse pour avoir de la valeur. Au minimum, ça ne pouvait pas faire de mal. La corde frémit entre ses doigts, et elle commit l'erreur de baisser les yeux. En réalité, ce qu'elle venait d'entreprendre pouvait faire du mal, beaucoup même.
« Le roi, lui dit Talik au-dessus d'elle, ordonne, s'enquérit en levant les yeux. »
Le roi affichait une expression inquiète.
« Ce n'est pas important, répondit Talik. Vous avez reçu un ordre. »
Risne serra les dents et s'accrocha à la corde, regardant les plaques de chitine devant elle.
« Et vous, que pensez-vous »
demanda-t-elle tout bas. En bas, la créature mâchait toujours et la corde, soudain extrêmement tendue, envoya Risne heurter le côté de l'énorme tête. Au-dessus d'elle, les ouvriers poussèrent des cris. Le roi leur aboya des ordres.
« Oh non !»
La corde se tendit encore davantage, puis céda. En haut, les cris redoublèrent d'intensité, mais Risne les remarqua à peine, car la panique s'emparait d'elle. Elle ne tomba pas avec grâce, mais dans un tourbillon hurlant d'étoffes et de jambes, la jupe claquant au vent, l'estomac soulevé. Qu'avait-elle fait ? Elle ? Elle vit un œil, celui du dieu. Elle l'entrevit à peine dans sa chute. Il était aussi grand qu'une maison, noir et lisse. Et il reflétait sa silhouette en train de chuter. Elle sembla rester suspendue devant lui une fraction de seconde, et son hurlement mourut dans sa gorge. Il disparut en un instant. Suivirent le sifflement du vent à ses oreilles, un nouveau hurlement, et une chute dans un océan aussi dur que la pierre, puis les ténèbres. Risne se surprit à flotter lorsqu'elle se réveilla. Elle n'ouvrit pas les yeux, mais sentit qu'elle flottait. Qu'elle dérivait, se soulevait.
C'est une idiote!
Elle connaissait cette voix. Talik, avec qui elle avait fait affaire.
Dans ce cas, elle m'est bien assortie, répondit Vestim.
Il toussa.
Je dois dire, mon vieil ami, que vous étiez censé m'aider à la former, pas la laisser tomber d'une falaise.
Elle flottait, dérivait. Un instant. Risne s'obligea à ouvrir les yeux. Elle se trouvait dans un lit à l'intérieur d'une hutte. Il faisait chaud. La tête lui tournait et elle flottait. Flottait parce qu'elle avait l'esprit embrumé. Que lui avait-on donné ? Elle tenta de s'asseoir. Ses jambes refusèrent de bouger. Elle eut le souffle coupé, puis se mit à respirer très vite. Le visage de Vestim apparut au-dessus d'elle, suivi par une femme réchie, inquiète, avec des rubans dans les cheveux. Ce n'était pas la reine, le roi, enfin bref. Cette femme parlait très vite dans la langue rude d'Erichi.
« Du calme maintenant, » dit Vestima à Risne en s'agenouillant près d'elle. « Du calme. Ils vont te donner quelque chose à boire, mon enfant. »«
J'ai survécu, » dit Risne.
Sa voix était râpeuse. « De justesse, » répliqua Vestima, mais d'une voix affectueuse.
Les sprènes ont amorti ta chute. De cette hauteur, mon enfant, qu'est-ce qui t'a pris de passer ainsi par-dessus bord ?
Il fallait que je fasse quelque chose, répondit Risne, pour prouver mon courage. J'ai pensé qu'il fallait que je fasse preuve d'audace.
Oh, mon enfant, c'est ma faute.
Vous étiez son Babsk, reprit Risne. Talik, leur négociateur ? Vous avez mis tout ça au point avec lui pour que je puisse avoir l'occasion de faire affaire par moi-même, mais dans un environnement contrôlé. L'échange n'a jamais été menacé, et vous n'êtes pas aussi malade que vous le laissiez croire. »
Les mots sortirent en un torrent, cascadant les uns par-dessus les autres comme une centaine d'hommes cherchant à sortir par la même porte en même temps. « Quand l'as-tu compris ?» interrogea Vestim, avant de se mettre à tousser.
« Je... »
Elle l'ignorait. Simplement, tout venait de se mettre en place, à l'instant. « Eh bien, tu dois savoir que je me sens très bête, » répondit Vestim. Je croyais que ce serait une occasion parfaite pour toi, un entraînement avec des enjeux véritables. Et ensuite, tu es tombé de la tête de l'île. Risne ferma très fort les yeux, tandis que la femme Réchi approchait, munie d'une coupe contenant un liquide.
« Est-ce que je vais marcher à nouveau ?»
demanda Risne tout bas. « Tiens, bois ça, » lui dit Vestim.
Est-ce que je vais marcher à nouveau ?
Elle ne prit pas le verre, mais garda les yeux clos.
« Je l'ignore, » avoua Vestim.
« Mais tu feras de nouveau affaire. »
« Passion. Oser outrepasser l'autorité du roi. Se faire sauver par l'âme de l'île elle-même. »
Il gloussa d'un rire qui semblait forcé. « Les autres îles vont réclamer de faire commerce avec nous. »
« Dans ce cas, j'aurai au moins accompli quelque chose, »
déclara-t-elle en se sentant parfaitement stupide. « Oh, tu as accompli quelque chose. Aucun doute là-dessus, » répondit Vestim. Elle ressentit une pression, assortie d'un fourmillement sur son bras, et ouvrit brusquement les yeux. Quelque chose y rampait, à peu près aussi grand que la paume de sa main. Une créature qui ressemblait à un crémillon, mais avec des ailes qui se repliaient le long du dos.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Risne.
« La raison de notre venue ici, » répondit Vestim. La créature que nous cherchions à acheter. Un trésor dont très peu de gens savent qu'il existe toujours. Ils étaient censés être morts avec Emia, vois-tu. Je suis venu ici avec toutes ces marchandises parce que Talik m'envoyait dire qu'ils avaient le cadavre de l'un d'entre eux à vendre. Les rois paient des fortunes pour ces créatures-là. Il se pencha. Je n'en avais encore jamais vu un vivant. J'ai reçu le cadavre que je souhaitais acheter. Celui-ci t'a été offert.
Par les Réchis ?
Questionna Risne, les pensées toujours confuses. Elle ignorait que penser de tout ça. Les Réchis ne seraient pas capables de commander au Larquin, conclut Vestim en se levant. Celui-ci t'a été donné par l'île en personne. Maintenant, prends ton médicament et dors. Tu t'es brisé les deux jambes. Nous resterons sur cette île un long moment pendant que tu guériras et que je chercherai à me faire pardonner de m'être montré si stupide. Elle accepta la boisson. Tandis qu'elle buvait, la petite créature s'envola sous le toit de la hutte et s'y percha, baissant vers elle des yeux d'argent uniformes.